Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Ah, voilà, de retour avec Camille Cusset, qui, encore une fois, moi, je ne sais pas comment vous faites pour tenir Camille là, avec tous les décalages horaires qu'on vous impose ici pour faire votre revue de presse. Alors, on va commencer hors du continent.
Oui, tout à fait. On va commencer donc avec le Fonds mondial de la lutte contre le sida. Qui s'exprime dans un article du magazine Les Échos Mag, donc c'est sur les changements climatiques. Donc, d'après ce fonds, la tuberculose et le paludisme en fait seraient en recrudescence dans plusieurs pays. Le directeur du fonds, qui s'appelle Peter Sand, estime que les inondations au Pakistan ont donné en fait une toute autre allure. Oui, voilà, c'est ça.
Qui dit inondation, milieu humide, moustique.
Voilà, exactement. Et donc développement de maladies comme le paludisme. Et ça a pris beaucoup d'ampleur avec cet événement-là. Selon Monsieur Sands, c'est surtout cette influence-là en fait que les changements climatiques auront sur les populations, c'est-à-dire le développement de maladies, la recrudescence de maladies. On aura des morts, en fait, à cause de ce système-là.
D'autant plus si des milieux humides pour les terres basses, là, les gens qui habitent tout près des côtes océanes, mm-hmm. Il y a des terres basses, ça crée des milieux humides, ça invite les moustiques à s'y inviter.
Ben oui.
Mais c'est au sein de populations qui n'ont pas beaucoup d'anticorps, parce que c'est des populations qui n'ont pas, dans le passé, été... exposés ou non, enfin, qui n'ont pas souffert d'épidémie, voilà.
Pour certaines, oui, c'est ça. En fait, il explique aussi que ça ne concerne pas, bien sûr, tous les pays, mais il y a certains pays sur le continent africain qui n'étaient jusqu'à maintenant pas touchés par le paludisme et maintenant ils deviennent à risque parce que les températures augmentent et ils permettent donc, oui, comme vous disiez, aux moustiques de prospérer, notamment en altitude, chose qui est assez nouvelle. Et la population de ces régions n'est pas immunisée. Donc
on a des risques je parlais des côtes, mais là, vous parlez de l'altitude.
Oui,
alors, il commence à avoir des moustiques dans les hauteurs.
Mm-hmm, exactement.
Des moustiques qui sont des vecteurs de maladies. Là.
Oui,
donc,
oui.
Quand on parlait, il n'y a pas tellement longtemps, à la dernière réunion COP27 là, en Égypte, mm-hmm. Les pays en voie de développement se plaignaient qu'ils, non seulement... ils n'émettent pas de gaz à effet de serre, là, ou à peu près pas, mm-hmm. Mais qu'en plus, ce sont ces pays qui doivent, je dirais, porter tout le choc des changements climatiques des inondations, et ainsi de suite. Mais la maladie s'ajoute à cette
C'est ça. En fait, ils portent vraiment le poids des conséquences de la pollution d'autres pays.
Ouais.
Puis le facteur est quand même meurtrier. On parle quand même de mort à cause de ce genre de maladie.
Mm-hmm.
Donc, c'est assez embêtant. D'autres menaces que le paludisme, on a aussi la tuberculose qui est en nombre croissant. Mais là, dans plusieurs régions du monde, donc pas seulement dans les régions comme... en Asie ou en Afrique. Monsieur Sands, donc, qui est le directeur du fonds, a indiqué que l'insécurité alimentaire aussi rendrait les gens beaucoup plus vulnérables à la maladie. On s'en doute bien.
D'accord.
Ouais, si on ne peut pas s'alimenter de façon correcte et saine, déjà, on a moins de force pour pouvoir lutter contre des virus et encore plus des maladies comme celle-ci. Donc, c'est un facteur à considérer. Il a parlé aussi d'ailleurs du Covid-19 en disant que s'il y avait une prochaine pandémie, on était à l'échelle mondiale préparé, mais que il faut mettre, disons, de l'eau dans son vin là-dessus parce qu'on n'est pas prêt à tout. En fait, on est préparé parce qu'on a vécu quelque chose comme ça.
Oui, tout à fait.
Mais pour gérer tous les facteurs, ce serait un peu plus compliqué.
Oui, puis il va y avoir d'autres maladies qui vont se déclarer, puis avec des vecteurs comme les moustiques, des choses comme celle-là.
Oui, oui.
Vous saviez que la consommation annuelle des habitants d'Afrique qui sont au sud du Sahara, c'est mm-hmm. l'équivalent d'un frigo nord-américain.
Consommation annuelle?
D'énergie, oui. Ils consomment la même énergie qu'un frigo nord-américain. Alors,
c'est quand même irrégulier.
L'empreinte de carbone, là, elle est pas répartie également dans le monde.
Mais c'est ça, c'est inégal, en fait, pas irrégulier, mais c'est fou, en tout cas.
Très inégal.
Dernière petite information, donc, donnée par le directeur. D'ici la fin 2022, le Fonds mondial aura investi environ 5,4 milliards de dollars. Donc, c'est un record, et on se dit bien que ça risque d'augmenter, vu que les changements climatiques...
Oui, 1,5, mais ça semble pas... C'est loin d'être suffisant.
C'est ça, exactement.
Ouf. Bon, en France, qu'est-ce qui se passe?
Alors oui, dans l'ouest de la France, on a un très bon article qui est sorti dans le magazine Ouest France. Enfin, très bon article parce que je trouve qu'il est intéressant puisqu'il concerne les proches aidants.
Ah.
Donc, en Sarthe, depuis le 16 novembre dernier, le département a créé une ligne téléphonique ouverte pour les bénévoles et les professionnels qui peuvent aider et assister les proches aidants. Donc, c'est une initiative qui a été développée par le département de la Sarthe, donc dans l'ouest de la France. Et c'est ça pour rompre l'isolement des aidants, en fait, qui donc, bien sûr, vivent des fois des situations très, très, très...
Lourdes,
oui, ouais. Exactement. Puis... je perds mes mots, mais en tout cas...
Ben, c'est parce qu'on peut imaginer si quelqu'un est conjoint d'une personne en perte d'autonomie ou qui a des difficultés cognitives, de s'occuper de son proche, de la personne
c'est
qui
ça.
Est avec nous, 24-7, c'est lourd.
Il y a le poids, c'est ça, il y a le poids matériel, le poids que représente la personne, ouais. C'est une chose normale, mais le poids affectif aussi.
Tout
c'est
à fait, financier, les inquiétudes. Alors ça va être une ligne téléphonique, donc un service
oui.
d'appel.
Exactement.
Qui va permettre aux proches aidants de trouver un répit, trouver de l'information.
Voilà, et c'est ça. En fait, il y a deux aspects. Il y a le côté répit, il y a le côté assistance, il y a le côté conseil et information. Donc sur tous les organismes qui peuvent aider les aidants. Donc tous les proches aidants sont concernés, hein. Il n'y a pas de distinction, que la situation soit plus lourde ou moins lourde, ça dépend. Mais tous peuvent téléphoner. Ceux qui viennent en aide de manière régulière et fréquente, donc ils peuvent le faire à titre professionnel ou à titre de bénévole, ils peuvent accomplir des actes, comme par exemple ils reçoivent l'appel téléphonique, puis ils prennent sur eux d'aller voir la personne,
ah,
par
d'accord.
exemple, des choses comme ça. Donc c'est assez développé. La cellule, elle est composée de bénévoles d'associations, donc du milieu associatif de la Sarthe, mais aussi de professionnels du milieu social. Donc ça, c'est rassurant quand même, quand on se dit qu'on parle ouais. à quelqu'un qui est du milieu.
Quelqu'un qui, entre guillemets, sait de quoi il ou elle parle.
Voilà.
Là, c'est important parce que c'est un conseil généreux mais mal avisé, là, ça peut avoir des conséquences. Alors, c'est vraiment un modèle qui pourrait être reproduit ailleurs parce que
oui.
la Sarthe, là, moi, j'étais curieux, j'étais allé voir c'est où. Hein? Alors, c'est à peu près dans un axe nord-sud là, vis-à-vis de la Normandie, puis est-ouest, vous partez de la Bretagne, puis vous allez vers l'intérieur des terres, c'est un peu au nord de la Loire. À titre de référence, c'est le Mans qui est le chef-lieu. Là, quand on parle des 24 heures du Mans, ben, ça a lieu en Sarthe. Mais de faire une ligne comme ça d'appel, ça pourrait être une solution pour d'autres départements, mais ici mm-hmm. aussi chez nous, ça pourrait nous aider.
Ben oui, tout à fait. Puis donc la ligne, elle est ouverte 22h, jusqu'à 22h le soir.
D'accord.
Donc quand même une bonne partie de la journée, de la soirée. Les week-ends aussi et les jours fériés.
Oui.
Ça, c'est une chose
ça, c'est important parce que c'est pas... la maladie ne connaît pas les jours fériés.
Exactement, et pas de répit. Donc voilà, c'était l'information sur cette petite cellule de ligne téléphonique.
On s'en va en République démocratique du Congo.
Exactement, la direction le continent africain, où le ministère des personnes vivant avec un handicap a maintenant un secrétariat général. Donc en fait, ce ministère a été créé en 2019, mais le budget ne permettait pas d'avoir une administration. Donc maintenant, on a une administratrice qui s'appelle Irène Issambo. Elle est la toute première ministre en charge donc, de ce ministère en République démocratique du Congo. Pardon. Pour Irène Issambo Diatta, donc Irène Issambo Diatta, elle est donc la ministre déléguée aux affaires qui concernent toutes les personnes vivant avec un handicap ou alors qui sont dans une situation de vulnérabilité. Elle est dans cet article publié sur RFI, donc RFI qui est une station de radio française, mais ils ont un volet numérique où il y a beaucoup d'articles sur différents sujets, dont des sujets qui concernent le continent africain. Et la ministre explique que la matérialisation de cette vision, donc c'est-à-dire d'avoir vraiment une administration...
Un support administratif. Oui,
voilà, exactement.
Pas une bureaucratie, là, pas qu'un ministère avec des visées vertueuses.
Voilà, c'est ça. Oui. Ben, c'est exactement ce qu'elle dit, en fait. C'est que ça passait vraiment par une administration pour concrétiser les choses, pour offrir des services, comprendre les besoins de toutes les personnes qui sont concernées par ce ministère. Donc, pour elle, c'était très important donc, de pérenniser une vision qui partait du président de la République et qui, ensuite, va se matérialiser dans des actions concrètes. Donc, une assez bonne nouvelle pour ce ministère.
Et ce qui est intéressant, c'est que leur intention, ce ne sont pas que les services, mais aussi les métiers.
Oui.
Pour permettre une inclusion sociale pour les personnes vivant en situation d'handicap. Alors, ce n'est pas une institutionnalisation là, qui va être pratiquée, mais c'est plutôt une inclusion dans la société.
Oui, tout à fait. Ben, ça fait écho à ce qu'on a vu ces dernières semaines, hein, avec l'importance d'inclure sur le marché du travail toutes les personnes. Donc, voilà, c'était le petit voyage.
Maintenant, ça va être Noël.
On parle
de Noël, voilà.
On va dans des choses plus Noël.
Ouais.
Ben, d'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à trouver ce genre d'article sur Automobile Magazine.
Oh, d'accord.
Souvent, ils publient en fait, des choses qui n'ont rien à voir avec
le handicap,
les voitures.
Ouais.
Exactement. Ben oui, encore moins avec le handicap,
ouais,
en fait.
Je pourrais penser, mais enfin, on pense plutôt à des gens qui font du sport automobile. Mais
voilà, oui.
Ces gens-là parlent d'une initiative.
Exactement, oui. Donc, à l'approche donc, des fêtes de fin d'année, ils ont publié l'initiative de l'ONG Handicap International, dont on vous parle un petit peu sur cette revue de presse, avec des initiatives.
Oui, Handicap International, ça a été créé par deux médecins français en Asie du Sud-Est au début des années 80, et ils viennent en aide surtout aux personnes victimes de guerre qui se retrouvent mutilées, amputées. Ou aux personnes déjà en situation d'handicap qui sont dans des théâtres d'opérations militaires.
Tout à fait, exactement. Et donc, ils ont publié donc, leur initiative qui est d'offrir, enfin plutôt de vendre, un sac traditionnel qui s'appelle le sac à sapin. Donc, ça existe depuis 29 ans.
Ouh.
Il est intégralement compostable. Il est disponible un peu partout, donc dans les commerces en France, dans les magasins de bricolage, les librairies, toutes les grandes surfaces alimentaires. Chez les fleuristes aussi. Ça, ça peut être intéressant d'avoir son petit sac à pain. Bah,
parce que moi, quand j'ai lu ça au début, je me suis dit, un sac à sapin, mais ça doit être énorme, ça, pour mettre un sapin, pour ramener le sapin à la maison.
Oui,
mais
ça.
Ce n'est pas de ça dont il s'agit.
Non, pas du tout.
Il s'agit d'un sac dans lequel on met un cadeau, puis qu'on mettra le sac sous le sapin.
Voilà, exactement. Voilà, c'est vraiment le sac pour le cadeau, donc le sac à sapin.
Voilà.
Les prix sont raisonnables, assez intéressants, puis si c'est réutilisable, c'est d'autant plus intéressant. On parle de 5 euros, soit à peu près 7 dollars, et 1,5 euros donc financeront les missions de Handicap International sur le terrain. Donc en fait, toutes les initiatives de cette ONG que vous voyez qui envoie des jeunes en Amazonie pour aller se dépasser tout en étant dans leurs conditions, ça servira à ça. Donc c'est assez intéressant.
Oui, parce que Handicap International s'occupe de toutes sortes de choses. Et en fait, c'est dans un sens plus large. Là. On parle beaucoup de personnes qui sont en situation d'handicap dans des endroits difficiles d'accès.
Exactement.
Où la situation est vraiment pénible et où ils sont souvent les laissés pour compte, si on peut dire.
Oui,
voilà.
Une petite note, en 2021, donc cette initiative, elle a permis de vendre 373 000 exemplaires du sac à sapin, donc quand même.
Hein?
Et quand on se dit qu'il y a 1,5 euros qui sont reversés à l'organisation, c'est quand même intéressant.
Ah.
Et donc, ils se sont écoulés en France. Donc, ce serait peut-être, je lance ça comme ça, mais une possibilité de
ben d'expandre. Oui, pourquoi pas faire une levée de fonds, trouver des sacs à sapin.
À l'international, puisque c'est un organisme international.
Exactement. Ah, ben on va en reparler, c'est sûr.
Mm-hmm.
Ben voilà, alors on vous laisse défaire vos valises, enlever votre manteau. Hein?
merci.
On se retrouve à la maison. De retour chez nous. Alors, qui dit Noël dit magasinage. Qui dit magasinage veut dire aussi aller au stationnement, au centre commercial. Et puis là, il y a toute la question des stationnements réservés aux personnes handicapées.
Oui, qui est en hausse, en fait. Le gouvernement du Québec nous apprenait le 16 novembre dernier qu'on a une hausse du nombre de vignettes de stationnement pour les personnes en situation de handicap. Le nombre de vignettes donc, est passé de 176 680 à donc il y a 17 000 demandes en plus en fait par rapport à l'année 2020.
Donc on est rendu à 176 000 vignettes au Québec.
Voilà, au total, exactement.
Et ça, c'est 17 000 de plus qu'il n'y a pas si longtemps.
Qu'en 2020, exactement.
Mais 176 000, c'est beaucoup dans le parc automobile.
Ben oui. J'imagine que c'est séparé quand même. Mais
Oui, tout de même. Mais là j'ai entendu quelque chose d'horrible ce matin parce que je parlais à quelqu'un des sujets que nous avions à l'ordre du jour. Mm-hmm. Et sa réaction immédiate, c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui sortaient d'une auto garée là où il devait y avoir une personne handicapée.
Oui.
Et que la personne n'avait pas l'air du tout handicapée.
Ça m'a
fait penser à deux choses. Une, que oui, effectivement, il y a des tricheurs, hein, des gens qui se garent là qui ne devraient pas y être. Mm-hmm. Deux, il y a des handicaps invisibles.
Oui,
il est possible que la personne puisse avoir l'air de sortir de son auto comme si de rien n'était, mais peut-être a-t-elle d'autres problèmes de motricité qui ne sont pas immédiatement évidents.
Mais est-ce que les gens avaient la vignette?
Ben ça, je ne le sais pas. L'histoire ne le dit pas. Ce que ça donnait un peu comme impression, c'est qu'on ne portait pas beaucoup foi, on ne semblait pas croire à ce que la personne était véritablement en situation d'handicap. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Je ne sais pas. Sinon, c'est une personne qui trichait, ce qui n'est guère mieux.
Oui, tout à fait. Mais c'est très intéressant parce que ce qu'on nous montre des gens qui se garent sur les places de stationnement réservées et qui n'ont pas l'air d'avoir un handicap, c'est que ce sont des tricheurs. On nous montre ça à la télévision, on nous montre ça un peu partout. Donc, on ne pense pas au handicap invisible, en fait. En tout cas, moi, pas du tout.
Et il pourrait peut-être y avoir des gens qui ont tout à fait droit à se garer dans l'espace réservé et qui pourraient... vite vu comme ça, rapidement, du coin de l'œil, avoir l'air des tricheurs, mais ce ne sont pas nécessairement des tricheurs. Alors, quoi qu'il en soit, ça amène évidemment la question de faire respecter le règlement.
Oui, exactement. Et donc, ça, cette tâche-là, elle incombe aux municipalités, donc qui sont responsables des stationnements, mais aussi de l'attribution des vignettes. Selon l'article donc, qui a été publié, les données recueillies montre que 48 municipalités en moyenne ont inclus une réserve, en fait une mesure relative à l'amélioration de l'accès aux espaces de stationnement. Donc ils ont mis ça dans un plan d'action et que ça représente quand même 116 mesures, donc des mesures législatives entre 2016 et 2020. D'accord. Donc les actions prises les actions mises en place passent par là, évidemment, par des plans d'action, puisque vous savez qu'il y a des plans d'urbanisme, d'aménagement et tout ça.
Exact.
Donc, ça passe par là. Ce sont des données qui sont disponibles dans la dernière édition du cyberbulletin Passerelle 7 Hyperlien. Donc, vous pouvez y accéder en allant sur le site du gouvernement. Et la fenêtre donc, vous indiquera où vous devez aller pour consulter où vous pouvez avoir des stations de stationnement.
Tout à fait. Et encore une fois, c'est important de les respecter.
Oui.
Parce que c'est pas un luxe. Et si le nombre de vignettes augmente, on pourrait penser qu'il faudrait aussi que le nombre de places augmente.
Ben oui,
voilà,
exactement.
Tout à fait. Ah, donc ça, c'est pour le shopping de Noël et les places de stationnement. Parlons de Noël, toujours dans le même, dans le même sujet. Il va y avoir une soirée Noël à l'INCA.
Oui, tout à fait. Donc, elle aura lieu le 15 décembre 2022. Vous avez jusqu'au 14 décembre pour vous inscrire. Donc, allez sur le site de l'INCA et vous aurez toutes les informations. C'est un événement qui sera en distanciel, qui, bien sûr, ils seront très heureux de vous accueillir avec des artistes amateurs et professionnels issus de la communauté de l'INCA. Et qui présenteront, bien évidemment, des chansons de Noël de 19h à 21h30. Donc, je répète, le jeudi 15 décembre, ça se passera à la rue Parthenay.
Donc, on peut y être à la fois en distanciel, mais aussi on peut y aller en présence.
Oui, exactement. Mais pour les présences, il faut vraiment s'inscrire parce qu'il y a 30 places maximum.
D'accord.
Donc, ça va aller vite, j'imagine. Oui. Sur place, il y aura breuvage et grignotine. Mais aucune nourriture et boisson de l'extérieur ne sera acceptée.
Voilà, alors amenez pas votre dinde. Là.
Voilà, exactement.
Gardez-vous une petite gêne. Amenez pas votre dinde à l'INCA, peut-être qu'il n'y aura pas de place. Mais donc ça, c'est le 15 décembre. Le 15 décembre, c'est dans pas longtemps, quoi. C'est dans...
C'est
un vendredi,
demi,
si ma mémoire est bonne.
Oui, ça se peut.
Hein? Vendredi ou un jeudi, il faut vérifier.
Mm-hmm, exactement, les prix du billet,
C'est un jeudi, me dit M. Tessier.
Merci,
M.
Tessier.
Calendrier. à portée de la main. Alors, c'est jeudi le 15. Bravo. Cela dit, Mémo Québec, mais quand on dit Mémo, on parle des blessures médulaires.
Oui, exactement. Donc ça, c'est une annonce pour les férus de recherche scientifique. Donc un nouveau répertoire de recherche en ligne pour le milieu des personnes en situation de handicap a été sorti par Mémo Québec. Donc oui, comme vous disiez, c'est Moelle épinière et motricité Québec. Donc l'organisme, donc Mémo Québec. Et le répertoire s'appelle moelleépinière.com. Donc c'est vraiment un répertoire de recherche qui propose une autre manière de consulter des articles scientifiques. Donc ça, je trouve ça intéressant dans la mesure où c'est très difficile parfois de faire des recherches scientifiques, de trouver ce qu'on cherche en fait. Donc c'est un outil qui est proposé par Mémo Québec. Vous avez 16 catégories différentes. Les publications en fait seront regroupées dans 7 catégories différentes. 16, pardon. Qui vous permettront en fait de comprendre que ce soit des compilations médicales, mais aussi des choses un petit peu plus en termes de recherche, des choses comme ça sur la circulation sanguine. Voilà, exactement. Sur la circulation sanguine, les loisirs aussi, les loisirs liés au corps, à la science, des choses comme ça. Le classement, il est en fonction de critères principaux qui ont été choisis donc, par Mémo Québec. Le directeur donc, de l'organisme explique que c'est à la suite de multiples demandes d'informations sur la recherche de la part de tous les membres que ça a été possible de faire ce répertoire-là, parce qu'on imagine bien qu'il y a des droits d'auteur, hein, des choses comme ça. Donc, pour publier, il faut avoir ces droits-là. La priorité, ce sera de mettre de l'avant les articles en français, donc gratuits.
Pour la francophonie.
Oui, exactement. Mais... Donc, les chercheurs qui publient en langue française vont certainement se retrouver là en fonction de leur champ d'expertise. Ils ont donc, si vous avez des difficultés ou alors si vous avez envie de proposer une publication de recherche...
On peut leur envoyer des documents qu'on trouve ou des communications qu'on vient de faire.
Exactement. Donc, je vais vous épargner le courriel, mais sur Mémo Québec... vous avez la possibilité d'envoyer vos publications ou vos suggestions. Donc, ceux qui s'intéressent à la recherche sur les lésions médulaires, notamment, ou les autres limitations physiques, physiques, n'hésitez pas.
D'accord. Ben ça, c'est bien parce que des fois, on ne sait pas. On peut aller sur Google, mais Google va nous envoyer parfois là où il y a eu le plus de contenus qui ont été ciblés. Mais ça peut ne pas être pertinent, et commencer à faire une recherche comme ça petit à petit, ça peut être assez fastidieux. Mais c'est bien ça que ce soit un phare de la francophonie. Ça me rappelle tout à l'heure la conversation qu'on avait avec M. Proulx de Procure, où il disait que le site de Procure était visité une centaine de milliers de fois par année, et près de la moitié venait hors du Québec de la francophonie en général.
Ben voilà.
C'est bien qu'on soit des phares, je veux dire.
Ça fait plaisir.
Des phares, dans la nuit. Voilà. Parlant de francophonie, on va parler d'art maintenant.
Oui, donc l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, donc la section Québec, hein, a annoncé la semaine dernière que 7 scénaristes en situation de handicap ils feront partie de la première cohorte du programme Scénarisation Accessible. Donc ça, c'est un programme de scénarisation, bien sûr, qui propose des ateliers aux personnes en situation de handicap. Et il sera animé donc par ces 7 scénaristes qui ont été sélectionnés. Cette initiative, elle est soutenue par le Fonds des médias du Canada et Ami Télé, qui pourront donc, les personnes participantes, pourront faire l'expérience d'une salle d'écriture accessible dans le domaine de la télévision. Ça, c'est assez rare.
En fait, ça a commencé tout juste la semaine dernière.
Voilà.
Ça va se dérouler jusqu'au 13 décembre.
Voilà.
Et les méritants, les personnes qui ont gagné, Patrick Desjardins, Laura Marocain, Étier, Philippe David, Jennifer Manning, Marie-Pierre Petit, Odan Youssouf et Stéphanie Veilleux. Et là, on parle de handicap parfois invisible, parfois d'une nature ou d'une autre. Et l'Académie canadienne, ce sont eux qui sont derrière les prix Gémeaux, entre autres. Hein? Alors, c'est tout de même des gens sérieux. Ami Télé, bien, on les connaît. Et ça aussi, ça, on peut dire que ce sont des gens qui ont le handicap visuel, entre autres, à cœur.
Tout
bravo.
À fait.
Ben, merci beaucoup, Camille.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Hein? C'était bien agréable.
Et vous repartez, là. Le taxi vous attend à la porte. Il faut que vous soyez votre prochain vol est dans 2 heures.